Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le numéro 559 d'Invino BFM. Vous le savez, c'est la seule émission au monde de radio à 100% consacrée au vin et aux spiritueux. Aujourd'hui, il est 13h05 pour une émission spéciale consacrée au grand vin de Bordeaux. Quels sont les enjeux? Qui sont les concurrents? Les Bordeaux sont-ils les meilleurs du monde? On y répond avec plein d'invités aujourd'hui, et notamment David Cobol, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Bonjour David.
Bonjour Alain.
Bon, ici, en terre bordelaise, les Anglais, vous êtes chez vous ici. Hein.
Mais on était très très longtemps, j'en parlerai tout à l'heure. Malheureusement, on ne l'est plus, mais enfin, on adore toujours les vins de Bordeaux.
Autre star, Bernard Burchi, le journaliste star du Figaro, qui signe d'ailleurs en ce moment dans le Figaro magazine 16 pages consacrées aux foires au vin. On trouve beaucoup, Bernard, de Bordeaux dans les foires au vin en ce moment?
Ça représente à peu près la moitié de l'offre des foires
quand
au
même,
vin.
Quoi. Et des petits, des grands, des moyens, de tout?
Il y a absolument de tout, et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, le pourcentage croît d'1% par année.
1% par an. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable pour cette émission délocalisée au château Soutard, à quelques rangs de vignes de Saint-Émilion. Et un premier invité, André Renaudin, le directeur général de ce groupe AG2R, La Mondiale. Bonjour André.
Bonjour Alain.
Alors dites-moi, en toute intimité, vous préférez l'Alsace ou le Bordelais?
Alors, c'est vrai que c'est Saint-Émilion qui nous accueille aujourd'hui et que c'est Saint-Odile d'Alsace qui m'a vu grandir. Je crois qu'on peut tout à fait conjuguer l'amour de l'Alsace et la passion pour Saint-Émilion. Il n'y a pas de dilemme.
Alors André, avant de parler de ce château Soutard qui célèbre ses 250 ans et qui appartient au groupe AG2R La Mondiale, un mot sur votre parcours. Vous êtes polytechnicien, Sciences Po Paris, également diplômé de l'Institut d'études actuariales. Et vous avez commencé très tôt dans l'assurance au ministère.
Oui, je n'ai fait qu'un seul métier, c'est l'assurance, et j'ai commencé par la contrôler. J'ai été contrôleur des assurances au ministère des Finances.
Et après, donc, des passages très remarqués, qui ont marqué beaucoup d'esprit aux AGF, à la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, vous avez rejoint la Mondiale en 2005 pour devenir le président, et vous assistez à un triple mariage, si je puis dire. Un premier mariage en 2008, et après deux autres en 2015, racontez-nous.
Oui, la Mondiale avait un partenaire, AG2R, et en 2007 a été décidé le mariage des deux maisons. Je parlais de conjugaison tout à l'heure, nous conjuguons paritarisme et mutualisme. Et puis depuis, nous n'avons cessé d'agréger d'autres groupes de protection sociale à AG2R La Mondiale. Et vous avez évoqué les plus récents, c'est Via Santé, mutuelle d'assurance santé, régie par le Code de la Mutualité. Et puis Réunica, autre groupe de protection sociale au 1er janvier.
Alors on ne le sait pas toujours, mais au total, AG2R La Mondiale représente le premier groupe de protection sociale en France.
Oui, nous sommes le premier groupe en volume de cotisation. Nous sommes le premier gestionnaire des régimes AGIRC et ARCO. Nous pesons 25% de l'ensemble des régimes, ce qui veut dire qu'un salarié du privé sur quatre est soit cotisant, soit pensionné chez nous. Et nous sommes leaders dans la plupart des branches d'assurance de personnes. Quand je dis leader, c'est très souvent sur le podium ou au pied du podium.
Combien de collaborateurs au total, André, au niveau national?
C'est 10 600 collaborateurs depuis le 1er janvier.
Alors, le groupe est extrêmement ancré dans les territoires, les terroirs, et aussi investi dans l'engagement social.
Oui, tout à fait. Je présente souvent AG2R La Mondiale comme le groupe des territoires et des terroirs. Alors des territoires parce que nous avons une action, une gouvernance politique déconcentrée sur 14 territoires sur toute la France. Et puis le groupe des terroirs parce que nous sommes le groupe de l'alimentaire et nous sommes donc très investis avec de nombreux partenaires partout en France. Et c'est le cas à Saint-Émilion.
On parle aussi de mécénat culturel parce que c'est vrai que la voie, le vélo, tout ça, on le voit partout. Mais le mécénat culturel, c'est plus discret, mais c'est important aussi.
Oui, au-delà de l'assurance stricte au sensu, vous évoquiez notre engagement social. La fondation AG2R La Mondiale est dédiée et symbolique de notre engagement social. Et nous allons constituer une fondation dédiée au mécénat culturel. Nous avons déjà commencé, comme M. Jourdain faisait de la prose. On va essayer de le structurer, lui donner beaucoup plus de visibilité. Saint-Émilion est un bon exemple.
Bravo, en tout cas, vous êtes un garçon extrêmement modeste, André Renaudin, mais vous avez été élu assureur de l'année en 2014, en plus en prime, hein, par un jury 100% féminin.
Ça m'avait
Est-ce qu'elles étaient jolies déjà, indépendamment de qu'elles aient du goût professionnel, si je puis dire?
Tout le jury, bien sûr, et ça m'avait fait très plaisir. Et
donc ça, c'est quoi? C'est la profession qui se réunit? Comment ça fonctionne?
Oui, il y a une petite association qui décerne tous les ans ce prix de l'assureur de l'année. Ça m'a fait plaisir. Mon prédécesseur à la Mondiale, Patrick Peugeot, avait été le premier assureur de l'année en 2002. Et donc, ravi que 12 ans après, cette distinction, je vais le dire comme ça, m'est échue.
Alors, je sais que vous écoutez chaque week-end Invino BFM, alors soit à Bordeaux sur 107.3, soit à Paris sur 96.3. Le groupe a investi dans le vin avec 4 châteaux, dont Soutard aujourd'hui, qui célèbre un anniversaire assez étonnant quand même, hein, 250 ans.
Oui, Soutard a 250 ans. La Mondiale fête cette année ses 110 ans. Et c'est notre 25e année de présence à Saint-Émilion. La première acquisition est tout proche de Château Soutard. C'est Château Larmande en 1990, que nous avons complété en 2005 par l'acquisition de Grand Fauril-la-Rose pour avoir deux chais. Un chais pour le Grand Cru classé et un chais pour le Grand Cru. Et puis sous nos fenêtres, quand on regardait vers le sud, vers Saint-Émilion, sur le plateau, il y avait Château Soutard. Et quand les propriétaires ont souhaité le mettre en vente, bien nous sommes portés acquéreurs, ce qui s'est fait en 2006. Et à ce moment-là, l'ensemble Château Soutard plus Château Larmand des Grands Fauries a donné vraiment consistance à notre exploitation émilionnaise, qui a été complétée encore en 2009 par Château Cadet-Piola, qui est tout proche également. Nous avons profité du classement des 25 émilions en 2012 pour intégrer Cadet-Piola dans l'appellation Soutard. Donc nous avons aujourd'hui trois châteaux, trois appellations, Soutard la principale, Larmande et Grand Fauries la Rose.
Et tous vos collaborateurs sont très fiers d'avoir ce vignoble bordelais, c'est presque un outil de motivation si je puis dire.
Oui, on peut le dire, ce que je dis, le corps social tout entier est très très fier de ces acquisitions et de ces propriétés. Quand je dis le corps social, ce sont les administrateurs, les sociétaires et tous les collaborateurs, effectivement.
Et là, vous avez relooké entièrement Soutard. On est en plein dans vos cuves, là, c'est magnifique. Ça a duré 2 ans, c'est ça?
Alors, ça s'est étalé sur une plus longue période. Nous avions commencé par reconstituer, reformer complètement les chais et les bâtiments administratifs. Ça a été la première étape. Et la deuxième étape a été de pouvoir rénover complètement les bâtiments. Le bâtiment principal, le corps de bâtiment d'habitation. Et la troisième phase consistera de l'autre côté, côté nord, à s'attaquer au jardin.
Bon, c'est super. Hein. David Cobol, Bernard Petit, vous avez bien dormi parce qu'on était évidemment les premiers à dormir au château Soutard. Nouveau look, si je puis dire. Bien dormi, David?
Ah oui, formidable. J'ai même dormi 2 fois plus que d'habitude.
Vous, Bernard, qui dormez pas beaucoup d'ailleurs?
Oui, non, l'endroit est absolument charmant. D'ailleurs, en plus, sur le plateau, ce qui est quand même un très bel endroit de Saint-Émilion.
Et puis la vue sur Saint-Émilion est superbe. Alors, à mes côtés également, Véronique Camporandi, maître de chais, charmante du château Soutard, belle, intelligente, c'est merveilleux. Et puis un garçon formidable aussi, Michel Roland, le plus célèbre des œnologues mondiaux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors
bonjour.
Véronique, un petit mot sur ce vignoble à Soutard. On parle un peu du nombre d'hectares, de cépages, de caractéristiques. Vous êtes là depuis combien de temps?
Très longtemps, depuis le rachat et auparavant au château Larmande, donc quelques années. Et puis avec toujours autant de bonheur à Soutard. Soutard,
vous dites ça parce qu'il y a André Rodelin à côté. Vous êtes vraiment très heureuse ici ou pas?
Très, vraiment.
Bon, alors combien d'hectares et quel type de cépage on trouve
donc,
ici?
Donc Soutard aujourd'hui c'est 30 hectares depuis le rachat de Cadet-Piola qui nous a permis de magnifier je pense le terroir de Soutard et apporter de nouveaux cépages. Le Cabernet Sauvignon qui est rentré, ainsi que le Malbec, notre petite coquetterie, ce qui porte aujourd'hui l'encépagement à 63% Merlot, 28% Cabernet Franc, 7% Cabernet Sauvignon et 2 Malbec. Tout situé sur ce magnifique plateau argilo-calcaire de Saint-Émilion. Dont,
et le style,
dont
comment peut le définir, Véronique? Élégant et sympa comme vous?
Je vois pas d'autres mots possibles. Non, bien sûr, le style du plateau, ça reste des vins droit, élégant, racé, avec des tanins plutôt soyeux, et une belle profondeur et surtout une capacité de vieillissement extraordinaire.
David Cobol.
Je note qu'il y a 30% à peu près, Véronique, de Cabernet Franc, et ça apporte toujours de l'élégance dans les vins de Saint-Émilion. C'est une tendance que je constate augmente, parce que le Merlot produit nécessairement beaucoup de sucre quand il est mûr, du coup pas mal d'alcool. Avec le réchauffement climatique, je pense qu'on assistera à une montée des Cabernet Franc dans les années à venir.
Michel Roland, vous en pensez quoi exactement, d'abord Soutard et puis également ce beau terroir de Saint-Émilion? Aujourd'hui la thématique c'est les grands vins de Bordeaux, Saint-Émilion bien sûr en fait partie.
Oui, ben Saint-Émilion est un des fleurons de l'appellation Bordeaux, des appellations communales de Bordeaux. Bon, Saint-Émilion, c'est une énorme mosaïque de terroirs, d'abord, au départ, parce que c'est grand, Saint-Émilion, ça fait 5000 hectares. C'est, si je ne m'abuse, à part Bordeaux, générique, c'est la plus grande appellation. Et donc, il y a beaucoup de terroirs. Soutard est placé là au milieu, sur un terroir tout à fait privilégié. Bon, si on est ici pour les 250 centenaires, ça veut dire que la propriété avait pris racine quand même, oui, il y a quelques temps.
Et
vous savez qu'autrefois, quand ça prenait racine, les anciens qui n'avaient ni consultants, ni œnologues diplômés, ni gens qui savaient, mais ils savaient quand même que par l'habitude, ils savaient très bien où implanter les vignes pour donner les meilleurs vins. Donc si Soutard a 250 ans aujourd'hui, c'est que le terroir de Soutard a intéressé du monde bien avant que la technologie n'arrive ou quoi que ce soit.
Et ce terroir de Saint-Émilion, est-ce qu'il est homogène? Parce que parfois on dit, voilà, il est très grand, il y a du bon, il y a du nettement moins bon. C'est-à-dire que c'est pas forcément une marque qualitative à 100%. Vous en pensez quoi? Et la vérité vraie, Michel Roland, pas le truc pour les touristes.
Mon cher Alain Marty, vous voulez que je me fasse écraser en sortant de votre émission?
Après, on recitera quelques châteaux mauvais,
vous
mais
savez,
tout à l'heure.
On dit pudiquement qu'il y a une mosaïque de terroirs. Alors, dans les mosaïques, on n'est pas forcé d'aimer toutes les couleurs. Et à Saint-Émilion, certainement qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus pâles que d'autres. Et il y en a d'autres qui relèvent un petit peu le ton de l'appellation en en général.
Bernard Bottier, vous partagez donc le côté suisse de Michel Roland.
Il y a quatre grands types de terroirs donc qui sont effectivement donc très différents. Donc le plateau, c'est sûrement le terroir donc le plus élégant. Donc il y a toujours une très belle fraîcheur. On a on a les vins de côte qui sont souvent plus costauds. On a la partie argileuse, on a la partie sablonneuse. Donc c'est vrai qu'il y a une mosaïque impressionnante qui d'ailleurs ne facilite pas la tâche aux dégustateurs parce qu'on a des styles de vins très différents sous le même nom de l'appellation.
Ça c'est compliqué quand même, Bernard.
C'est compliqué, y compris pour les gens qui classent, parce qu'évidemment, il y a des modes. Donc, ces dernières années, on préférait des vins plus costauds. On revient sur des vins plus élégants. Donc, c'est vrai que c'est compliqué.
Michel Roland, le classement, on en parle un peu de Saint-Emilion. Il est spécifique, hein, il est différent de celui du Médoc, hein, rappelez-nous.
Et il est très différent, puisque d'abord, celui du Médoc remonte à 1855 et il n'a pas bougé, sauf une exception qui a été faite pour Mouton Rothschild en 1973. Alors que sur le Saint-Emilion, il est né en 1954, et avec la décision de le remanier ou de le revisiter tous les 10 ans, ça n'a pas été fait au départ, mais depuis maintenant une trentaine d'années, ça a été remis à l'œuvre. Ce n'est pas sans problème, mais comme toujours, quand on discute de choses qui ont quand même un côté un peu subjectif, c'est normal que les discussions soient longues et fastidieuses. Je trouve que c'est une très bonne chose toujours de se remettre en question, parce que le jour où on pense qu'on est rigide et qu'on a tout gagné, c'est la fin des haricots, donc il ne faut pas le faire.
Véronique, le classement, il y a quoi? Il y a des A, il y a des B, il y a des grands, des petits, comment ça marche?
Il y a des A, il y a des B, il y a des juste classés, et puis avec cette volonté et cette envie de toujours progresser, je crois que cette révision du classement...
Est-ce tout tard à l'ambition de continuer à grandir?
Oui.
Ah oui, vraiment massif. Mais David Cobol, quelque part, c'est vrai que 1855, c'est immuable. Si on a été bon il y a 3 siècles, on n'est pas forcément bon 3 siècles après.
Quoi. 1855,
c'est bien Saint-Emilion, non?
1855, c'est un document archéologique. Donc c'est intéressant pour la période.
Les pharaons du vin.
Mais oui, ça date il y a 150 ans. Donc ça n'a plus nécessairement cours aujourd'hui. Cela dit, ça a une importance pour les consommateurs étrangers. On ne peut pas le nier. Et c'est pour ça que l'enjeu financier du classement ici à Saint-Emilion, qui est le seul vrai classement révisé régulièrement, plus ou moins régulièrement, comme Michel a dit, l'enjeu est conséquent pour les producteurs. Moi, je suis assez sceptique quant à l'intérêt réel du classé, mais je constate que sur le plan commercial, ça fonctionne.
Ça fonctionne. André Relodin, vous avez envie d'aider vos équipes pour essayer d'atteindre le nirvana de Saint-Emilion?
J'évoquais tout à l'heure le mot de podium. C'est vrai que notre ambition est bien d'être avec beaucoup d'autres châteaux sur le podium des premiers grands crus classés.
Michel Roland, vous qui voyagez aux quatre coins du monde, les étrangers, les internationaux tiennent compte également de ce classement pour eux, c'est important?
Oui. C'est incontestable. L'image des classements, d'abord, elle est française. Elle est 1855. Parce que tout le monde a la référence 1855. Mais les gens, à travers le monde, aiment le classement. C'est une façon de se repérer, parce que c'est pas simple, le vin. On a beaucoup d'appellations, on a beaucoup, comme Bernard le disait, on a beaucoup de vins dans une même appellation. Donc les gens ont besoin d'un classement. Alors le classement ne rend pas tout, mais par contre, ça donne une idée, ça donne des repères aux gens, et je pense qu'on en a besoin.
Merci à tous.
C'était d'ailleurs le but du classement de 1855.
Oui, un repérage, en tout cas.
Où Jérôme Bonaparte a demandé ça.
Ah, sacré Jérôme. Merci à tous. Nous marquons une première pause. Et ensuite, retour à Saint-Emilion ici pour cette émission spéciale Bordeaux en public et décalisée dans les murs magnifiques du château Soutard.
BFM Business, week-end. Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au château Soutard pour cette émission en public et délocalisée en terre bordelaise avec Bernard Burchi himself qui nous présente les grandes caractéristiques de ce beau vignoble bordelais. Tout à l'heure, on a zoomé sur Saint-Emilion, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres.
Il n'y a pas que ça, c'est sûr. Donc Bordeaux, c'est 127 000 hectares de vignes, ça vous dit rien, mais c'est 2% des surfaces mondiales, c'est deux fois l'Australie, pour prendre un exemple. C'est pas le plus gros vignoble de France, puisque le Languedoc en a quand même deux fois plus. Donc ici, et puis ensuite, il y a le Rhône et la Loire. Et il y a une grande diversité des vins. Bon, il y a d'abord une grande masse qui s'appelle Bordeaux et Bordeaux supérieur, qui représente 45% donc des vins. Donc ensuite il y a les vins de côte. Vous connaissez les côtes de Bourg, etc. Donc 12-14%.
C'est bon ça?
Il y a des jolis vins partout dans toutes les catégories, et y compris dans les Bordeaux.
Mais c'est important. À tous les prix, on trouve des bons Bordeaux.
À tous les prix, et d'ailleurs probablement c'est le meilleur rapport qualité-prix du monde dans pas mal de catégories. Mais personne ne sait, ce qui est un peu embêtant.
Mais c'est pour ça qu'il y a une vidéo BFM.
Donc ensuite il y a la rive gauche. donc ici, donc la rive gauche donc de la Garonne, donc qui représente à peu près 15%, les Médocs, les Graves, il y a le Libournais où nous sommes, donc Saint-Émilion, Pomerol, 11%. On fait aussi un peu de vin blanc sec, une dizaine de pourcents. Donc ici, et puis on fait un peu de vin moelleux qui vont malheureusement pas aussi bien. Les rouges représentent 86% du vin, les blancs et puis aujourd'hui donc les rosés qui montent un peu. Donc ici les 14 autres pourcents. Donc pour fixer un peu les idées. Donc on a vraiment trois catégories de vins, donc ces fameux Bordeaux, Bordeaux supérieur, qui ont beaucoup progressé donc ces dernières années, qui sont passés par une période difficile et donc qui commencent à bien se positionner donc sur le marché mondial. Donc on en a des rapports qui ont été pris remarquables. Donc ici, donc je les ai tous emmenés au concours de Los Angeles, qui est le plus vieux concours des États-Unis, 90 ans, d'ailleurs plus vieux que les concours français, juste pour dire.
Et ça, c'est un concours crédible, contrairement à d'autres.
Voilà, et c'est un concours crédible où se trouvent tous les acheteurs. Et quand on voit les prix, donc ici, c'est 5 euros, 8 euros. Aujourd'hui, dans le monde où la compétition est féroce, donc ici, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on trouve des vins à ce prix-là. Donc ça vaut...
Et de qualité.
Et de qualité. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, donc c'est catégorie intermédiaire, qui représente à peu près la moitié du volume, entre les côtes. D'ailleurs, je viens de faire un test important le week-end dernier, puisque pendant 3 jours, j'ai emmené des dégustateurs du monde entier pour goûter les vins du Grand Cercle, donc qui sont justement les non classés, qui sont dans cette catégorie, sur le 2011. D'ailleurs, j'aurais dit, il faut vous appeler le Grand Cercle des vins abordables, parce que ça vaut une dizaine d'euros, une douzaine d'euros, là aussi. On a une amélioration considérable, grâce à l'œnologie bordelaise, parce que les propriétés sont mieux tenues. Et puis on a les grands vins. Les grands vins qui représentent 5% en volume. Avec ces messes, il y a la grande messe des primeurs. Ici, où viennent tous les dégustateurs. Il y a ces prix. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent. D'ailleurs, attaquons tout de suite le sujet qui fâche, ces fameux prix. Sachant que quand même 95% des vins sont des prix hyper compétitifs sur le marché mondial. Donc ça, il faut vraiment le souligner. Donc ces vins-là, pendant longtemps, ce fameux système des primeurs date, il est accessible aux particuliers depuis la fin des années 70. Et d'ailleurs, ça a permis à un certain nombre de gens, dont moi d'ailleurs, de faire des très belles caves. Des super bonnes affaires. Puisque c'était un peu plus cher dans les grands millésimes. Mais puis, à la fin des années 90, on commence à assister à la mondialisation. Des prix qui montent dans les grands millésimes, des prix bradés dans les petits millésimes, on les retrouve d'ailleurs tous dans les foires en vin. Donc aujourd'hui, vous pouvez pratiquement tout avoir. Et puis à partir de 2003, le système disjoncte, c'est-à-dire que jusqu'en 2002, l'amateur français pouvait acheter y compris d'ailleurs un premier cru classé, on casse un peu sa tirelire. Mais c'était accessible à un cadre supérieur sans aucun problème. À partir de 2003, par exemple, une caisse de premier cru, c'est le prix d'une voiture.
Grande voiture parfois.
Là on est dans un changement de donne. Donc on est passé sur un marché hautement spéculatif avec des dégustateurs qui forcent cette spéculation. Ce qui leur permet d'ailleurs de faire une grande réputation. Mais donc mondialisation, spéculation, sont aujourd'hui les deux moteurs de ce marché.
Merci Bernard. Michel Roland, vous qui conseillez plus de 150 propriétés dans 14 pays, comment on peut définir le style des grands vins de Bordeaux? Puis alors, la question bête de journaliste, est-ce que les vins de Bordeaux sont les meilleurs du monde?
On a combien? 4 heures?
4 heures.
On va pas
annoncer la rédaction.
Je crois que Bordeaux a toujours été un endroit de référence. Et on est toujours venu. Tous les grands producteurs du monde viennent à Bordeaux en matière de référence. Je dirais qu'ils viennent aussi en Bourgogne s'ils veulent faire du pinot quand même, parce qu'à Bordeaux, les pinots sont rares.
Véronique, vous connaissez les pinots de Bourgogne aussi?
J'espère.
Vous savez où c'est la Bourgogne,
J'espère et je sais qu'elle les aime en plus. Mais bon, donc la France et Bordeaux en particulier a toujours été une terre de référence. Donc ça, Bordeaux, on ne l'enlèvera jamais. Il y a des très grands vins à Bordeaux. Tous les vins ne sont pas très grands et tout le temps, mais par contre...
Et le prix, Michel, dont parlait Bernard,
prix échappe totalement à la qualité des vins. Ça, il n'y a pas de relation entre le prix et la qualité. Vous croyez que du Chanel, ça vaut le prix de Chanel? Non, mais c'est Chanel. Je m'en fous. Mais dans les vins, c'est pareil. Il y a des vins, Lafite, ça vaut peut-être pas Lafite, mais par contre, ce que je vais dire, une chose seulement, c'est que quand Lafite est grand, personne n'y touche. Quand vous prenez un Lafite 59, je pense pas qu'il y ait de bouteilles comparables à travers le monde. Alors là, ça peut valoir n'importe quel prix. Le problème, c'est que ça vaut n'importe quel prix, même sur un Lafite 92, qui est peut-être pas aussi grand que ça. Voilà, c'est ça le problème de la situation. Mais les gens ont qu'à avoir un petit peu de discernement aussi. Et j'arrête pas de dire à ma femme que le Chanel, il n'y a pas que ça dans la vie, et que ça peut, on peut trouver le même sac pour moins cher.
On l'embrasse, bon, votre donc, femme. Et alors, on va faire rebondir. Tu as vu qu'il voyageait beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres grands vins par ceux de Bordeaux? Oublions la France, ailleurs dans le monde.
Il y a des grands vins. Il y a de plus en plus de grands vins. On va s'en apercevoir. C'est vrai qu'on met un peu de temps à réagir parce que on a quand même aussi une habitude. Le vin et la dégustation, c'est très subjectif. Je pense qu'aujourd'hui, l'Amérique du Sud fait quelques vins qui méritent intérêt et qui vont mériter intérêt dans les années futures. La Californie fait des grands vins. Napa Valley fait de plus en plus de grands vins. Je pense qu'il y a d'autres endroits au monde où l'Italie, bien sûr, l'Espagne, dans les vieux pays.
Véronique, vous avez déjà dégusté des grands vins étrangers dont parle Michel Roland?
Oui, bien sûr. Dégustation des grands vins, ça reste
fondamental
pour notre culture.
André Renaudin aussi, vous qui voyagez beaucoup?
Oui, j'ai eu la chance de découvrir. Je le connaissais de nom depuis longtemps, mais j'ai découvert gustativement qu'il y a 2 ans le Vega Sicilia.
Ah ben ça va, vous avez des bons copains. Là, c'est un Bernard Vecchi, grand moment. Les grands vins étrangers, ils existent, Michel Roland le rappelait. Mais alors, il y a une bonne chose, c'est qu'ils sont aussi chers que les nôtres.
Oui, plus ou moins. Ah donc ici, alors c'est vrai que vous aujourd'hui, Arlan Estate, ça vaut $500.
Ben, c'est cher, ça, non?
Bon, Vega Sicilia est un prix très accessible, relativement. Ça vaut 200 euros, 250 euros, mais parce qu'ils ont aussi un système de commerce. Original. Ah, donc ici, où les gens sont abonnés depuis souvent 2 générations, 3 générations, ils achètent leurs 3 bouteilles, leurs 6 bouteilles. Ah, donc ici, mais donc dans la Californie, c'est sûr que les prix sont chers. Aujourd'hui, les Barolo, qui à un moment donné s'étaient envolés sur
Barolo,
le marché
c'est
mondial,
pays,
se sont fait rattraper.
Italie.
Aujourd'hui, ça vaut 100, à part Gaïa, ça vaut 100 euros. Ah, donc ici, donc un grand Barolo, même 50 pour certains. Donc il y a quand même une vérité du marché.
D'accord. David Cobold, vous partagez l'avis de Michel et de Bernard?
Non, c'est évident qu'il y a des grands vins dans beaucoup de pays du monde et il y aura de plus en plus dans de plus en plus de pays du monde. Bordeaux reste une référence. Et je dirais que cette concurrence qui est réelle, qui existe et qui va s'accroître, est une bonne chose pour Bordeaux, parce que ça oblige les gens à faire plus attention, à faire de meilleurs vins.
Michel Roland, on le voit. Michel Roland, partagez les propos de David, c'est-à-dire que Bordeaux ne doit pas s'endormir non plus. On est leader, vous êtes leader, mais il faut le rester, quoi.
Ah, mais jamais s'endormir. On est leader, mais il y a une pépinière de bons endroits dans le monde, donc on n'a pas le droit de dormir. Mais Bordeaux ne dort pas, hein, quand même. Il faut quand même rendre à Bordeaux ce qui appartient à Bordeaux. Je pense qu'en matière de technologie, dans les 25 dernières années, on a trouvé 90% des progrès qu'on a fait dans le vin à Bordeaux. Alors on ne peut pas dire qu'on soit endormi quand même.
Mais le fait d'aider les autres à faire des bons vins, c'est agaçant sinon?
Eh bien oui, mais il faudrait nous payer plus cher pour rester à Bordeaux.
Bon, moralité, André Renaudin, ça va coûter plus cher l'émission là. David Cobold, les pays émergents, on n'en a pas parlé, est-ce qu'on peut imaginer demain des grands vins en Chine, en Inde ou en Angleterre?
En Angleterre, ça va être plus long, sauf pour les bulles. Non, les bulles, ça arrive parce qu'on estime que le climat en Angleterre aujourd'hui, c'est le climat de la Champagne il y a 30 ans. Donc il y a tout le potentiel et puis c'est le même sous-sol. Donc il y a le même potentiel pour faire des bonnes bulles. Mais quant au vin rouge et au grand vin, je pense qu'il y aura, c'est une question de temps avant que ça émerge en Chine. Chine, c'est un vaste pays, on n'a pas exploré tous les territoires, il y a des problèmes dans certains, il y a des conditions extrêmement différentes, il y a la volonté, il y a l'argent, ça va venir.
Pour terminer, Michel Roland, la bouteille, alors oublions le Lafite 59, ça on a compris que vous avez plus marqué au monde. Une seule bouteille.
Une seule bouteille?
Oui.
Cheval Blanc 47.
Merci Michel Roland, merci à tous. Nous marquons une pause pour les infos de 13h30 et ensuite retour au château Soutard pour cette émission en public et délocalisée.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au château Soutard pour cette émission en public et délocalisée avec David Cobold, The David Cobold, qui va tout nous dire sur l'histoire et la résonance mondiale des grands vins de Bordeaux.
Alors Bordeaux a la chance d'être au bord de l'eau. C'est de là où vient son nom. Ça paraît être une évidence, mais c'est capital pour comprendre la réussite des vins de cette région. Tous les vins, d'ailleurs, ne venaient pas de Bordeaux, qui étaient exportés par Bordeaux, parce que le principe était une origine, c'était une estampille sur une barrique. Ça venait de ce port. Donc cette activité portuaire a été capitale. C'est un peu comme la moka en Éthiopie. Il n'y a pas de café à un moka.
Commentaire sur le moka, Ben Agurci, en Éthiopie.
C'est en tout cas un café très fin et très particulier.
Mais qui ne vient pas de moka. Donc tous les vins de Bordeaux ne venaient pas de Bordeaux. Alors ça s'est modifié progressivement. Alors je vais passer sur les Romains, premièrement, qui ont probablement installé les vignes ou est-ce que c'était des Gaulois, on s'en fiche un peu.
Le plus vous important, vous en fichez, mais nous non. Hein.
Le plus important, c'est de l'arrivée des Anglais. Ben oui, parce que Bordeaux a été inventé par et pour les Anglais. Il faut quand même se le dire. 12e siècle et suite. Donc, 1152, le futur roi Henri Plantagenet, qui devenait un roi Henri d'Angleterre, s'est marié en deuxième noce pour elle, avec Éléonore, avec la dissolution de son mariage. Et ça a donné naissance à un énorme marché qui a duré 300 ans. Il faut quand même se figurer que les Anglais exportaient du textile et des métaux, un peu d'aliments, et en échange prenaient du vin. Et ce trafic est monté à un tel point que il y avait jusqu'à 300 navires en 1373 qui quittaient le port de Bordeaux, pas que Bordeaux, il y avait un peu Libourne et les
et
ports.
Uniquement avec du vin ?
Que du vin vers l'Angleterre. C'était 2/3 du volume des produits exportés.
Mais il n'y a pas d'eau chez vous, là, en Angleterre, là,
alors, non. Alors, rendez-vous compte à la Marty. Le roi qui allait se marier en Angleterre, Édouard II, a commandé 1000 tonneaux de vin. Un tonneau fait 900 litres. Ça fait 1 100 000
bouteilles. Il avait combien de femmes, ce garçon, parce que 1000 tonneaux
ouais. Alors, rien que pour fêter son mariage. Alors, à l'époque, les Anglais, 3 et demi d'habitants, mais pas de chauffage central. Alors, tout ça explique une partie des choses. Donc, un énorme engouement qui a duré 300 ans.
André, on a un commentaire peut-être sur les Anglais, le chauffage central, non ?
Tout ça est très logique.
Alors, était-ce le même vin ? Pas du tout. C'était le vin qu'on appelait, mon père l'appelait toujours, claret. Claret qui vient du français clairet, et dont on trouve trace dans l'appellation. Un clairet, un bordeaux clairet, c'est un rosé foncé ou rouge clair. Donc le vin, en fait, à l'époque, on mélangeait les cépages dans les vignes. Le blanc et le rouge allaient ensemble dans la même cuve, donc on ne faisait pas un vin rouge bien foncé. Donc c'était ça qu'ils consommaient. Et les Anglais donnaient des privilèges aux Bordelais pour pouvoir acheter leur vin, et c'était des deals. On donnait une certaine liberté politique en échange pour une fourniture en vin. Par exemple, le maire de Saint-Émilion, nous sommes ici à Saint-Émilion.
De l'époque, pas maintenant.
Il y a un maire de Saint-Émilion, oui, non, mais depuis le temps des Anglais, ils ont le droit d'élire leur maire à Saint-Émilion. Ça n'existait pas sous les Français. Hein. C'est les Anglais qui ont donné cette liberté, mais le taux d'échange était 50 tonneaux de vin par an. Donc Saint-Émilion donnait 50 tonneaux, et en échange, ils avaient le droit d'élire leur maire. En fait, c'était
une démocratie organisée.
Voilà, voilà, très bien, avec un intérêt commercial certain. Alors, évidemment, après la bataille des Castillons, tout ça s'est beaucoup dégradé. Et c'était quand même assez dramatique parce que le vin allait vers l'Angleterre, il allait éventuellement vers d'autres ports, vers le nord, et on va voir la suite avec les Hollandais, les Hanséates, etc. Mais n'allait pas à la cour de France jusqu'à la Révolution. Il n'y avait pas une bouteille de vin de Bordeaux à la cour de France parce que on ne pouvait pas acheminer le vin par voie fluviale, on ne pouvait pas remonter toute la Seine, ce n'était pas possible. Or qu'en Angleterre, il y en avait des tonnes. Donc au fait, il y avait quasiment un marché unique pendant 300 ans. Après la chute de l'anglais Aquitaine, les Hollandais sont arrivés, ont joué un très grand rôle, mais les Hollandais, étant un peu près de leur sou, achetaient le vin beaucoup moins cher que les Anglais. Et ils aimaient un autre style de vin. Ils aimaient le blanc, sec ou doux. Après, beaucoup de vin a été distillé. C'est eux qui ont été instrumentaux dans le développement du cognac, par exemple, parce qu'ils pensaient, en faisant le brand de vin, brûler le vin, qu'en rajoutant de l'eau après, on allait trouver la même chose. Non, on ne trouvait pas la même chose. Mais ça a économisé et du transport et des taxes. Les Hollandais sont toujours très, très raisonnables en matière de
rigoureux.
Rigoureux. Alors, les Hollandais ont drainé le Médoc, ça a beaucoup développé cette région. Ils ont donné naissance au vin de Sauternes. Et ils représentaient quand même, en an 1700, plus des 3/4 des vins exportés de la Guyane. Et les pays baltes, scandinaves et la Russie ensemble avaient dépassé les îles britanniques. Les Bretons, je veux dire les petits Bretons, commençaient à commercer aussi, ce qui explique la montée de la consommation de vin en Bretagne, qui garde cette tradition d'une manière très fière aujourd'hui. Alors, ça c'est la deuxième période. La troisième période, c'est la fin du 19e siècle, et là, on a un début d'évolution de technique. De Pontac, Arnaud de Pontac à Oubrion a commencé à séparer raisin blanc et raisin rouge pour faire un vin rouge foncé, qu'il a vendu uniquement à Londres, d'ailleurs. Ça fait le château Aubryon, dont on a le témoignage chez Samuel Pepys, qui dit « Ce jour, j'ai bu le vin le plus remarquable et singulier que j'ai jamais goûté, O'Brien. H-O-B-R-Y-A-N. » Donc, on ne sait pas à quoi ça ressemblait, mais c'était rouge, c'était foncé, et ça s'est gardé. Il y avait une nécessité de garde. Jusqu'alors, parce qu'il n'y avait pas de bouteille de garde, la bouteille était inventée en Angleterre, les vins se vendaient jeunes. Les navires anglais embarquaient les vins à l'automne et jusqu'au printemps, et surtout pas après, parce qu'un vin vieux se vendait pour 3 fois
moins. Oui, c'était pas bon, quoi.
Alors, donc, développement technique, la bouteille, la barrique, la mèche à soufrer apportée par les Hollandais, l'élaboration de vins rouges costauds et tanniques, et là, on a un nouveau bel âge d'or pour le Bordelais, et au tournant du XVIIIe siècle, 2/3 du tonnage annuel des bateaux quittant Bordeaux étaient du vin de nouveau. Après le 19e siècle jusqu'à nos jours, il faut le faire une autre fois.
On en parlera tout à l'heure,
mais
David Cavallo.
Cette importance de l'export, cette prédominance de l'export dans les vins de Bordeaux a fait que les vins de Bordeaux sont devenus un référent mondial.
À vos côtés, à nos côtés également, deux nouveaux invités, Bertrand de Villene, le directeur général de la Mondiale Grand Cru, et Aude Morgan, le directeur général de Nicolas. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bertrand de Villene, côté distribution, on a vu avec, grâce à David Cobol, l'évolution des grands vins de Bordeaux, pourquoi ils sont tournés vers l'international. Comment vous faites pour vendre le Château Soutard? C'est en France, à l'étranger? Comment
alors,
ça marche?
Je vais déjà rassurer David, il y a encore un mariage d'amour avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est un de nos partenaires très importants. À Bordeaux, nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle la place de Bordeaux, qui est un univers de négociants très puissant et très bien organisé. Il faut savoir que parfois on pense à tort que les intermédiaires sont coûteux. Et à Bordeaux, c'est l'inverse. Le négoce,
c'est un vrai job.
C'est un vrai job. Le négoce a des prestataires qui s'appellent les courtiers. Et ces courtiers connaissent en général très bien une région, très bien les châteaux, très bien la stratégie des propriétaires et très bien la stratégie du négoce. Et quand il y a une demande à l'export, très vite le négoce arrive à la contenter grâce à ses courtiers. Le coût est connu, ça coûte 2%. Autrement dit, ils auraient un service achat en direct, cela serait beaucoup plus onéreux.
Plus cher, quoi.
Donc la place de Bordeaux est une machine de guerre. Nous avons la chance, nous, ici, enfin la chance comme beaucoup d'autres propriétés, nous travaillons principalement avec 10 négociants et 3 courtiers. On les connaît parfaitement, ils nous connaissent parfaitement.
Et les vins sont vendus en France ou à l'international?
Oui, effectivement. Donc nos vins sont vendus, alors très rapidement, 1/3 en France. Et là, effectivement, la GMR, vous en parlez tout à l'heure, les foires aux vins sont merveilleuses pour nous. C'est souvent des clients qui achètent en primeur et qui, au mois de septembre, octobre, des foires aux vins font des offres excessivement compétitives et Soutard a la chance d'être présent. Après, nous avons 1/3, enfin on va dire 1/3 au total, c'est Europe, France plus Europe. Il faut savoir que les Belges, les Suisses et le marché britannique
raffolent le Soutard.
Ça, voilà. Nous avons, je ne peux pas, l'autre tiers c'est l'Asie, Chine, Japon, Hong Kong, Taïwan et Séoul.
Merci Bertrand. Aude Morgan,
Chine qui est devenue le premier marché à l'export pour les vins de Bordeaux globalement.
Aude Morgan, notre directeur général donc de Nicolas. Déjà Nicolas, combien de boutiques, combien de cavistes, Aude?
On est à 490 magasins.
490 magasins uniquement en France?
Uniquement en France, enfin non, on a quelques pays, on est en Angleterre, quand même pour aller voir ce qui s'y passe.
Oui.
Belgique, Maroc, Liban, enfin quelques pays.
Alors quel regard vous portez d'abord, est-ce que Nicolas consomme et achète beaucoup de grands vins de Bordeaux déjà? Et quel regard vous portez en tant que professionnel sur l'évolution de la vente, de la distribution de ces vins de Bordeaux?
Alors oui, on achète beaucoup, on est même allocataire, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes négociants. Ce qui s'est passé ces dernières années, Bernard Buchy l'a très bien décrit tout à l'heure, un dérapage, mais dû aussi à une demande.
Vous l'avez ressenti, ça. Vos clients disaient stop, j'achète plus de Bordeaux.
C'est pas que j'achète plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on vend du vin pour être bu. Je crois que c'est important de le rappeler. Et je pense que les gens qui font du vin sont quand même ravis que ce soit bu. Alors on parle effectivement des premiers, des très grands. Aujourd'hui, ne sont malheureusement plus bu, puisqu'ils sont spéculés, achetés pour être vendus. Et quelques rares personnes arrivent à les boire. Mais quand vous avez un vin qui vaut 2000 euros... C'est pas.
Il faut vraiment être directeur général de Nicolas pour se l'acheter. Hein.
Pas tous les jours, mais bon, on essaye. Non, voilà, donc c'est surtout ça, nous, ce qui est important pour nos clients, l'aspect primeur, on en a parlé, ils achètent pour boire, ça, c'est pas pour spéculer. Donc aujourd'hui, nous, là, la difficulté, c'est la place de Bordeaux qui est assez. Qui bouge beaucoup, les prix bougent beaucoup. Elle revient à une certaine stabilité, on le ressent, là, depuis les années difficiles, les 2-3 dernières années. Donc ce qui est une bonne chose, ce qui est une bonne chose de revenir à une stabilité de prix. Pour que le client qui a acheté une bouteille il y a 2 ans ne la retrouve pas moins chère aujourd'hui sur le marché.
Exactement.
Parce que ça n'a pas de sens.
Donc ça veut dire que vous considérez qu'il y a un renouveau d'un point de vue rapport qualité-prix des grands vins de Bordeaux?
Oui, enfin un renouveau...
Ils redeviennent raisonnables, on va dire, peut-être.
Raisonnable. Après, qu'est-ce qu'on appelle raisonnable? Oui. Quand vous achetez un... Je ne vais pas parler de Chanel, parce qu'il y a déjà eu quelqu'un, mais quand vous parlez d'un iPhone...
Qu'est-ce que vous
un
avez
iPhone
tous qui vaut contre Chanel?
Rien du tout, on l'adore. Mais un iPhone qui vaut 700 euros, bah, une très belle bouteille qui vous laisse un souvenir...
Bertrand de Villene, Soutard a toujours été raisonnable, on va le dire, hein, au niveau des prix. Hein, donc avec un très bon, on peut le dire, un très bon rapport qualité-prix.
Je pense, et on fait très attention à cela, et on essaye que cette stratégie soit la même dans tous les pays. Ce qui est un peu dur à régler, on a vraiment, et ça c'est un travail étroit avec le négoce, c'est la différence entre les deux circuits. circuit, c'est-à-dire comment faire qu'un produit présent en grande distribution en foire au vin ne décourage pas un restaurant, et nous voudrions être dans les deux circuits. Donc c'est un travail assez pointu, et nous le faisons avec le négoce pour que, en juin, avec un décalage de millésime. Mais on veut être présent dans les deux circuits, il faut ne pas perdre.
Oui. Ed Morgan, comment on peut définir la distribution du vin en France? C'est-à-dire que les cavistes, ça représente combien? Je sais que vous êtes impliqué également au niveau du syndicat national des cavistes.
Tout à fait, les cavistes, on est un petit peu moins de 10%.
10%,
des, 10% des
et
ventes.
La grande distribution,
alors, c'est
quand
vrai,
même.
C'est vrai que les cavistes vont être un peu plus puissants dans les vins fins, ce qu'on oui. appelle les vins fins, puisqu'effectivement, notre clientèle est assez différente de la clientèle de la grande distribution.
Et avec une vraie notion de conseil chez vous, par exemple.
Absolument, tout à fait. Maintenant, le prix, ce n'est pas choquant, parce que les qualités, c'est vrai qu'il y a des qualités absolument admirables, des souvenirs d'une
bouteille
qu'on a mis à 20
ans. Vous croyez qu'un vin vaut 2000 euros, par exemple, quel que soit le vin?
Le vin, il vaut le prix que le client est prêt à l'acheter. Hein.
Pour ce client-là.
Bernard Blotier, 2000 euros de bouteille de vin, ça vous choque ou pas?
Il y a l'effet rareté, donc il joue un rôle très, très important, et beaucoup de prix, c'est quand même joue l'effet rareté.
David Cobol.
Moi, j'ai pour principe de jamais acheter un vin qui coûte plus de 50 euros.
Oui, ça, c'est votre barre psychologique et financière.
C'est aussi ma poche. Hein.
Votre poche, oui.
Mais là, pour rejoindre...
Rappelez, vous avez un huitième de son écossais.
Pour rejoindre les vins qui se vendent très, très bien, c'est effectivement à moins de 100 euros.
Et vous, à la cave de la Madeleine à Paris, par exemple, qui est magnifiquement située avec des touristes, les gens viennent, ils cassent un peu leur tirelire parce qu'ils
oui,
sont à Paris.
Alors
parce
les
qu'ils
gens,
sont en France.
Notamment les touristes, effectivement. Ouais. On a parlé des Chinois, les Japonais, qui sont très très amateurs de grandes bouteilles. Alors effectivement, eux vont casser leur tirelire. Maintenant, leur tirelire est peut-être plus importante que les
André
autres.
André Renaudin, ça vous choque un peu tous ces vins un petit peu élevés, on va dire, ou pas? Ou alors il y a un marché pour tout le monde?
Oui, il y a un marché voilà. pour tout le monde. Je crois que je me suis fait, il y a déjà assez longtemps, une raison à cela. Je suis comme David, j'ai aussi une poche et d'autres ont des poches plus profondes. C'est le monde qui est ainsi. Donc, ce que je pense, c'est que David nous a raconté de belles pages d'histoire du vin de Bordeaux. On voit bien les challenges qui sont devant nous. Ed Morgan et Bertrand Villaine les ont remplis. Bien, ça va continuer comme ça. C'est de challenge et puis de passion.
Ben, Daburci, on peut être optimiste ou pas? Parce qu'on en a beaucoup parlé. La production, la vinification. Oui, maintenant, on parle de commerce, de business. Est-ce oui, que oui
la,
ou non?
La question de fond, quand même, c'est ce négoce bordelais, donc ces courtiers qui étaient très adaptés au 18e, 19e, 20e siècle, y a-t-il encore au 21e siècle hein, donc ici, et donc là, c'est quand même une question de fond majeure. Hein, donc ici, donc, je ne suis pas sûr que ça soit le cas.
Pour terminer, parce qu'il reste peu de temps, David, oui ou non au 21e siècle pour le négoce bordelais?
À condition qu'elle s'adapte, je suis mille fois d'accord avec Bernard, et qu'elle joue un rôle de découvreur,
Bertrand,
ce qu'elle
oui
n'a pas
non.
joué depuis longtemps.
Oui, tout à fait.
Et oui, on, donc tout le monde est optimiste.
Mais les propriétaires l'ont compris et les conditions s'améliorent.
Merci beaucoup, merci à tous. Une dernière pause et puis ensuite retour au château de Soutard à Saint-Émilion. Cette émission délocalisée et en public, nous parlons dans quelques minutes des enjeux de l'œnotourisme en terre bordelaise.
BFM Business, week-end. Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au château Soutard, nous sommes à Saint-Émilion. Le temps est clément, il fait très doux. On se régale pour la suite de cette émission spéciale Bordeaux en public et délocalisée avec un nouvel invité, Yves Damécourt, qui est le maire de Sauveterre de Guyenne. Bonjour Yves.
Bonjour.
Alors dans votre famille, vous êtes 100% politique et puis bercé entre le vin et la forêt, racontez-nous.
On est viticulteur, forestier et puis on aime aussi donner du temps à la collectivité.
Oui. Vous êtes élu, votre frère aussi?
Je suis élu et mon frère aussi, oui.
Alors racontez-nous, on parle un peu de l'œnotourisme, émission spéciale Bordeaux. Quels sont les enjeux qui connaissaient très très bien cette terre bordelaise? Est-ce que c'est important? On disait qu'il y avait plus d'un million de touristes chaque année sur Saint-Émilion. Quel est votre avis, votre sentiment?
Il y a 4,3 millions de touristes en Gironde chaque année. Il y en a un sur trois qui vient notamment pour le vin, la gastronomie. On a un département qui est très, très attirant avec le littoral, Arcachon, le Médoc, Soulac, et puis Saint-Émilion, le Médoc. On a des sites classés UNESCO, la citadelle de Blaye, Bordeaux, Saint-Émilion.
Ça, ça a apporté beaucoup de touristes en plus quand c'était classé?
Ah ben c'est énorme, c'est un tiers de touristes en plus.
Et un alors, tiers de touristes en plus.
Ce qui est très intéressant, c'est que le touriste qui est intéressé au vin dépense beaucoup plus que le touriste classique. Le touriste classique, il dépense 40...
Celui qui vient brancher de l'eau, il dépense moins de sous, celui qui vient acheter du vin. Quoi.
49 euros par jour pour un touriste classique, 93 pour un touriste intéressé au vin.
Ah ouais. Donc, parce qu'il mange aussi.
Voilà, sur les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires du tourisme en Gironde, il y a 130 millions qui sont le chiffre d'affaires des touristes intéressés
et
au
Yves,
vin.
Yves, est-ce qu'on peut faire plus?
On peut faire plus, c'est d'ailleurs pour ça que les territoires s'équipent, c'est pour ça que la commune de Bordeaux avec l'interprofession, avec l'association des crus classés, avec la région construit le centre culturel des cités du vin à Bordeaux.
Et on salue les cases d'ailleurs.
L'objectif, c'est de faire que Bordeaux s'implante dans la tête de tous comme la capitale mondiale du vin et derrière ce hub qui est la cité des
Et les touristes, ils sont quoi? Ils sont français, ils sont européens, ils sont japonais, chinois, ils sont indiens, ils sont zoulous?
Ils sont comme les Bordelais, c'est-à-dire qu'ils viennent du monde entier, parce qu'en fait, Bordeaux, c'est une terre d'accueil depuis très longtemps. Bordeaux a été anglaise, si tant est, à mon avis, c'est pas Bordeaux qui était anglaise, c'était plutôt l'Angleterre qui était française par son mariage avec Aliénor.
Bien, bien. C'est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux que vous, David Cobbold, Yves.
D'ailleurs, je vous rappelle quand même que le slogan de la reine est toujours en français. On y soit qui mal y pense.
Mais parce que parce que la cour d'Angleterre parlait français jusqu'à très récemment.
Allez, on réagit sur les propos, le tourisme, les enjeux, Bernard Burchi, pour une terre comme riche, hein, comme le Bordelais.
Oui, donc l'enjeu, est, on le voit aujourd'hui donc, dans le monde entier, il suffit d'aller dans la Napa Valley, etc. Il y a des propriétés qui font 300 000 bouteilles où tout est vendu, hein, donc ici, donc sur place. Hein, donc ici, à un prix fort, donc rémunérateur. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu majeur.
Donc c'est pas un bon plan financier d'acheter la propriété, vous voulez dire?
Non, mais la propriété que vous avez... La propriété a cette chance extraordinaire, les clients viennent les voir. Toutes les industries du monde rêvent que les clients viennent les voir. Quand même. Ouais. Et ils en partent ravis. Donc c'est quand même assez fabuleux. Donc ça n'a pas de prix. Ouais. Donc c'est normal qu'on protège les circuits de vente. Donc c'est normal que ça se vende au prix normal.
David Cobbold.
Ils partent ravis, mais à condition que le personnel en place, les propriétaires, si c'est les propriétaires ou leur personnel, soient formés pour accueillir. Parce qu'il faut
considérer. Et c'est le cas ou pas? Est-ce qu'ils parlent anglais? Est-ce qu'ils sont souriants? Est-ce qu'ils sont sympas?
Et pendant très longtemps, ce ne fut très rarement le cas à Bordeaux, il faut bien le dire. On était reçus pas toujours très bien, ça dépendait de l'endroit. Et maintenant, c'est devenu un vrai enjeu. Et la plupart des gens ont compris l'intérêt de se former et de se structurer pour recevoir.
Yves Damécourt, vous en pensez quoi? Parce que là, il a l'impression de dire que les Bordelais ne sont pas très sympas et pas très souriants et agaçants, cet anglais. Hein.
Non, c'est vraiment une terre d'accueil, Bordeaux. D'abord, les Bordelais, il n'y a pas de vieille famille bordelaise. Ce sont soit des descendants d'Irlandais, soit des descendants de Hollandais, soit des descendants d'Anglais, soit des descendants de Pieds Noirs. Voilà. Bordeaux, c'est déjà
Votre famille est implantée quand même localement depuis très longtemps, non?
Oh, depuis très longtemps, non? Depuis les années 70.
Ah, donc, 70,
Gascon, il est caché quelque part dans les forêts des Landes, c'est ça que vous dites?
Anne Morgan, le directeur général de Nicolas, qui fait le métier parmi nous aujourd'hui pour cette émission spéciale Bordeaux, l'accueil et le tourisme, ça vous concerne vous aussi en tant que grand distributeur français?
Vous avez entendu les derniers chiffres, je crois que la France accueille presque 85 millions de touristes. Nous sommes très présents dans les grandes villes, bien évidemment, et à Paris, puisqu'on a plus de 150 magasins Paris Intramuros, donc bien évidemment que les touristes viennent nous voir. C'est très très bien qu'ils viennent voir le vignoble, ça c'est très important, parce que c'est vraiment notre art de vivre, et c'est important de donner cette image dans le monde. Après, bien évidemment, qu'ils passent dans les magasins, tant mieux pour nous.
Il faut qu'ils achètent un petit peu. Oui. Bertrand de Villèle, vous accueillez du public ici à Soutard? On faisait le parallèle avec Bernard Bucci qui disait c'est génial tous ces gens qui viennent nous acheter à la maison.
On pense que c'est absolument génial. Ici, alors c'est très local, je ne réponds pas de façon globale, mais nous avons quatre atouts et je réponds à tout le monde. Nous sommes patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, c'est quelque chose de très important.
C'est Saint-Emilion et son vignoble.
Et ses paysages. On a parlé de 4 millions de visiteurs. Il y a 1 million de visiteurs à Saint-Emilion. Je pense qu'il y en a au moins 1 sur 3 qui vient à Saint-Emilion. C'est automatique. Secondo, notre vignoble est dans Saint-Emilion. Mais pour répondre à David, des choses très importantes, c'est que nous sommes organisés et construits pour le no-tourisme. C'est-à-dire que quand on a des chais, c'est pas n'importe quel chais. Il faut qu'il soit adapté. Et il faut du personnel dédié. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui... Donc en fait, on a au moins 4 atouts. Et il faut travailler ces 4 atouts. Et le no-tourisme, c'est un mot excessivement large. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la queue dans le magasin. Mais ça peut être des dégustations, mais... et vin. Ça peut être des visites dans le vignoble, ça peut être l'organisation d'un séminaire, ça peut être la gestion d'un magasin.
On peut tout faire chez vous.
La gestion d'un magasin avec des produits dédiés, la gestion d'une cave à vin. Autrement dit, on met dans le tourisme énormément de choses. Je les segmente en fait. Il faut tout faire, mais le faire de façon précise les unes après les autres.
Yves Damécourt, vous qui êtes élu, maire également très impliqué au niveau régional, les grands axes, le pari pour cette terre, l'Aquitaine, la Gironde, au niveau touristique, au niveau non-touristique, comment vous voyez les choses?
D'abord, on a gagné un combat il y a quelques années, il y avait un combat mondial sur le vin, il y avait ceux qui disaient qu'il fallait que les vins soient des vins de cépage et ceux qui disaient que les vins soient des vins d'assemblage, et en premier lieu les Bordelais. Je crois que aujourd'hui, Bordeaux, la marque de Bordeaux, c'est l'assemblage, et l'assemblage c'est une philosophie. Donc dans une bouteille, il y a plusieurs cépages, il y a plusieurs terroirs, il y a une mosaïque et on fait un produit, chaque produit est unique. Ensuite, dans une bouteille de Bordeaux, il y a l'histoire d'une famille. Et à Soutard, on le voit ici, c'est l'histoire d'une famille qui a construit ce domaine, etc. Et ça, c'est aussi une spécificité bordelaise, française et bordelaise. Et puis, dans chaque bouteille, il y a un peu d'histoire. Donc, il faut vendre cette spécificité. Maintenant, pour accueillir mieux les gens, il faut qu'on fasse plus de voies, de routes pour que les gens puissent circuler en Gironde. Il faut que les gens qui sont à Arcachon puissent venir facilement à Saint-Émilion.
Et là, il y a du boulot, vous dites.
Et là, il y a du boulot.
Est-ce que les politiques ne doivent pas être plus fiers que ça des vins? Parce qu'en France, en Australie, ils avaient un ministère du vin. Nous, on se dit, tiens, à part les élus des régions viticoles, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais sinon, les autres, il faut être fiers du vin français.
J'en profite pour lancer un appel, vous savez qu'il y a un amendement qui était passé sur la clarification de la loi Evin pour permettre aux journalistes de faire leur boulot, de faire de l'information, en faisant la différence entre la pub et l'information. Cet amendement repasse la semaine prochaine au Sénat. Et donc, je fais un appel aux sénateurs qui siègent au Sénat, qui soient de droite ou de gauche, pour qu'ils soutiennent cet amendement du gouvernement.
Absolument.
Et pour qu'on clarifie la loi Evin une fois pour toutes.
C'est important. Bernard Mutu, vous nous rappelez un peu la problématique liée à cette loi Evin qui date des années 90, 92.
Le problème est assez simple, c'est qu'il n'y a pas de définition légale de la publicité en France. Et donc, si vous écrivez un article et que vous dites du bien d'un vin, on peut vous dire c'est de la publicité déguisée. Enfin, moi, personnellement, je ne mets jamais la mention sanitaire. J'adorerais qu'on m'attaque. Donc ici, puisqu'on fait une page entière...
N'exagérons rien, Bernard, nous sommes en paix. Les Anglais sont partis, tout ça,
non,
la vie est belle.
Pour clarifier justement ce point-là, donc il y a plein de gens qui n'osent pas écrire parce qu'ils ont peur de se faire attaquer.
Bon, en tout cas, pour notre émission Invino, la seule émission de radio en français depuis 11 ans, 559 numéros, nous avons un ton, une liberté de ton qui est assez remarquable. David Cobol, vous en pensez quoi?
Je pense qu'il est grand temps de clarifier ça. Ça me paraît complètement aberrant, étant un peu étranger et un peu français par adoption, que ce pays qui gagne tant du vin... le traite d'une manière si par-dessus la jambe. Enfin, c'est quand même hallucinant.
La loi Evin de Morgan, ça vous ennuie aussi ou pas?
Ça ennuie, il faut vivre avec, bien évidemment. Oui, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on a l'impression d'avoir honte du vin, alors que c'est quand même notre histoire et c'est
Bertrand de Villene, il faut être fier du vin français, de Soutard en particulier.
Soutard en particulier, je l'accepte. Mais il faut aussi mettre la petite notion, c'est que une guerre publicitaire peut aussi trop promouvoir les géants.
Oui.
Donc nous sommes très morcelés, je prends ce terme de mosaïque.
C'est
donc
vrai.
Cette loi...
Protège les petits aussi quelque part.
Alors en fait, je ne suis pas suffisamment...
Mais Bertrand, le vrai problème, c'est ce que vous avez dit, c'est la définition de la publicité qui n'est pas claire, parce qu'un journaliste peut être attaqué pour publicité.
Et Damico, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter...
un problème sur la liberté de la presse.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour conclure donc au grand vin donc de Bordeaux, pour qu'il continue à rayonner dans le concert mondial?
Eh bien, que les grands vins continuent à entraîner les petits vins et que les vins à boire et les vins de spéculation fonctionnent ensemble et que les touristes restent un jour, deux jours, trois jours de plus et qu'ils continuent à dépenser 100 euros par jour pour développer la Gironde.
Et l'objectif, ce serait pas de passer à 150 euros, par exemple?
150 euros, c'est bien, mais s'il reste...
Les huîtres, parce que les huîtres en transport pour Tokyo, ça marche très bien, six ans après.
Mais d'ailleurs, les huîtres, à l'origine, sont japonaises, mais elles se développent en Gironde.
Bon, très bien. David Cobol aussi, on leur souhaite plein de choses.
On souhaite plein de choses et on souhaite ouvrir cette belle région de l'entre-deux-mers aussi, qui est magnifique à visiter avec des églises romanes extraordinaires.
La Toscane bordelaise.
Merci à tous. Un grand merci à André Renaudin, le directeur général du groupe AG2R La Mondiale, qui nous a accueillis ici en direct du château Soutard, qui a été entièrement rénové. C'est magnifique. On se retrouve demain à 16h pour une nouvelle émission avec notamment un invité Hervé Hatt, le président de meilleurtaux.com. D'ici là, les infos de 14h. Restez fidèles à BFM Business et surtout, n'oubliez jamais de respecter la plus grande des modérations.